BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver comme chaque semaine dans cette nouvelle édition de Focus Retail. Au sommaire, changer sa façon de consommer, une tendance déjà bien ancrée qui se confirme dans ce contexte tendu par l'inflation. Les Français se tournent vers des modes alternatifs de consommation, la seconde main, le déstockage. Les grands magasins s'y mettent. Pour en parler, nous recevrons Jean-Marc Belaïch, président du groupe Printemps. Et il y a aussi la location, notre start-up de la semaine veut convertible l'ensemble des géants du retail à ce business model. Pour en parler, nous recevrons Tanguy Frécon, cofondateur de la start-up Lizzie. Pour réagir, notre expert Nathan Stern, directeur des études chez Altavia Schuppermann. Et on commence tout de suite par l'actualité retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jacou.
Focus Retail, l'actu de la semaine.
Eva Jacob, bonjour.
Bonjour Noémie.
Échanger un objet contre de l'argent en magasin, quelques produits dont on ne se sert plus peuvent remplir le porte-monnaie. C'est le concept d'Easy Cash qui vient de nouer un partenariat avec Auchan. L'enseigne accélère son développement d'offres en vrac.
Oui, et le premier corner a ouvert à Noyelles-Godault dans la région des Hauts-de-France. Sur une surface de près de 100 mètres carrés située à l'entrée du magasin, on trouve des articles d'occasion high-tech et de luxe. Easy Cash a constitué son stock à partir de ses magasins, de ses propres magasins et à sa propre équipe dédiée. Alors d'autres corners de ce genre devraient apparaître dans plusieurs hypermarchés Auchan, à savoir qu'Easy Cash n'en est pas à son premier partenariat. Il est déjà présent dans 5 hyper Cora et 2 autres ouvertures sont prévues d'ici la rentrée.
Auchan et Cora dans la grande distribution, mais aussi le groupe européen Showroom Privé qui propose des produits tech reconditionnés. Eva, on voit que la grande distribution s'engouffre dans ce marché de la seconde main.
Oui, l'engouement pour la seconde main n'a jamais été aussi fort, notamment à cause de l'inflation. Selon l'Observatoire CTLM 2022, près d'un Français sur deux achète régulièrement des produits d'occasion et 46% d'entre eux en revendent. Alors pour la grande distribution, c'est un moyen de créer du trafic dans les hypermarchés. Leclerc et Système U optent, eux, pour le même principe. Les produits d'occasion rachetés aux particuliers sont payés en bons d'achat. Idem pour la mode, Auchan, Carrefour et Système U proposent à leurs clients de récupérer leurs vieux vêtements contre un bon d'achat de 5 euros. Alors, ce dispositif est mis en place dans 130 hypermarchés Carrefour et 27 de ces magasins vendent également des vêtements de seconde main.
Et autre actualité, Fnac Darty propose de l'aide en vision. L'occasion pour les clients de faire le point sur la maintenance, l'entretien de leurs produits. Cette nouveauté fait partie de ce programme de service de réparation Darty Max.
Oui, l'idée ici, c'est d'empêcher que les appareils électriques et électroniques ne tombent en panne. C'est finalement de prévenir la panne en quelque sorte. Alors pour cela, il faut veiller à les entretenir correctement, mais surtout régulièrement et selon les recommandations des constructeurs. Alors il s'agit d'un engagement du groupe qui s'inscrit dans une démarche de développement durable et d'économie circulaire. Et ce service s'étendra à la Fnac le 16 juin prochain.
Et c'est un service par abonnement?
Oui, exactement. Et pour rappel, Darty Max répond à la question de pourquoi jeter quand on peut réparer. Alors ici, c'est plutôt que faire pour que mon appareil ne tombe pas en panne. Alors cette nouvelle formule, c'est de la maintenance préventive. Chaque abonné sera contacté une fois par an par visioconférence. Le but, c'est de faire le point sur l'état général des produits des abonnés qui sont enregistrés dans leurs abonnements. Des opérations à réaliser sur ces produits lui seront demandés si besoin. Alors c'est un moyen de lutter contre la surconsommation. Darty Max compte à ce jour 500 000 abonnés. Le groupe espère atteindre 2 millions d'abonnés d'ici 2025.
Oui, on a appris aussi cette semaine que Daniel Kretinsky est monté au capital de Fnac Darty. Le milliardaire tchèque franchit désormais le seuil de 15% de capital et des droits de vote. Il était déjà le deuxième actionnaire après le deuxième groupe, donc le distributeur allemand Ceconomy. Autre actualité en région, désormais une immense boutique dédiée exclusivement à la seconde main vient d'ouvrir à Bordeaux.
Oui, cet espace de 500 mètres carrés vient d'ouvrir ses portes à Bordeaux, vous l'avez dit, mais au cœur de la promenade rue Sainte-Catherine, c'est la plus grande avenue commerçante de la ville. Alors, ICOS, c'est un magasin solidaire dédié au réemploi, où l'on trouve de la mode, des meubles, de l'électroménager ou encore des jouets ou des livres. Alors, tous les articles de cette boutique sont sélectionnés par 9 associations et entreprises solidaires, comme le Relais, par exemple, qui collecte et valorise les vêtements, le livre vert ou encore les compagnons bâtisseurs. bâtisseur qui collecte les invendus de la grande distribution et les matériaux de chantier. Alors ICOS avait déjà ouvert une boutique éphémère dans le centre commercial d'Auchanlac et ça avait été un vrai succès.
Et quel est le projet d'ICOS?
Alors ICOS a été lancé en 2017 par 5 acteurs de l'économie sociale et solidaire. Leur objectif, c'est de créer un grand village pour la nouvelle vie des objets sur la métropole de Bordeaux. Alors ce sera un espace de 15 000 mètres carrés pour traiter 12 000 biens, tonnes de biens par an. Alors ce sera un lieu de vie où l'on trouvera une recyclerie créative, des centres de tri et une galerie marchande. Soutenue par Bordeaux Métropole, ce projet devrait voir le jour l'année prochaine.
Oui, Bordeaux et sa région viticole que vous connaissez par cœur. Merci Eva Jacquot, on vous retrouve la semaine prochaine et place désormais à l'œil de l'expert.
Focus Retail, l'œil de l'expert.
Devenons-nous des surconsommateurs en achetant des produits de seconde main, que ce soit par engagement solidaire ou tout simplement pour le plaisir de faire une bonne affaire? Car acheter d'occasion ne veut pas dire forcément acheter, consommer moins. Nathan Ster, nous allons tenter de répondre à cette question avec vous. Bonjour, vous êtes directeur des études chez Altavia Shoppermind. Alors, sommes-nous consommateurs ou des surconsommateurs?
Bonjour Noémie. Effectivement, quand on pense économie circulaire, consommation, occasion, on se dit tout ça est forcément vertueux. Et en fait, moi j'ai envie aujourd'hui de vous parler de l'effet rebond. L'effet rebond, c'est le nom qu'on donne à un phénomène un peu paradoxal. Quand une innovation permet de consommer de manière plus responsable, ce qui peut se passer, c'est qu'on en vienne à consommer plus. Et donc, un peu comme une balle qui tombe et qui finit par rebondir, ben on se retrouve avec un remède qui est parfois un petit peu plus nocif que le mal qu'il est censé soigner. Quelques exemples pour illustrer ce phénomène. La réglementation impose un abandon des sacs jetables. Alors tout le monde se met à chercher des alternatives durables, comme le tote bag.
Sauf que le tote bag,
voilà, a un succès terrible. Il incarne très bien cette alternative écologique, avec ses matériaux un petit peu bruts. Et on se retrouve avec une montagne de tote bags et un nouveau problème à gérer qu'on n'avait pas anticipé. Un autre exemple, la performance énergétique des logements. On améliore le rendement du chauffage. On se retrouve avec des foyers qui disent, ben finalement, pour le même prix, je peux chauffer avec 1 ou 2 degrés de plus. Pourquoi s'en priver? Et là encore, ben finalement, on a neutralisé les effets positifs qu'on a pu constater dans le champ de la mode. C'est évidemment très fort aussi, puisque dès qu'on rend fluide, glamour, accessible en termes de prix, l'occasion, ben en fait, on accroît la rotation des équipements, des accessoires, des vêtements, et on se retrouve à devoir produire plus alors qu'on a développé l'occasion. Donc plein de...
Oui, c'est le fait de pouvoir revendre donc, sur ces plateformes, ça nous permet aussi d'augmenter le pouvoir d'achat, donc la richesse des consommateurs, et ensuite peut-être qu'on se dit aussi on peut acheter des produits neufs parce qu'on sait que de toute façon on va les revendre.
Exactement, donc ça commence à être intégré dans les stratégies d'achat. On se dit, tiens, combien je vais pouvoir en tirer? Alors, pourquoi cet effet rebond? Ben, d'abord, il y a une explication un peu économique. On a effectivement un gain de pouvoir d'achat qu'on ne réalloue pas forcément à de la sobriété, à de la frugalité, qu'on va peut-être vouloir réinvestir dans plus de consommation. Il y a aussi la bonne conscience. Si pour la même somme, je peux avoir un SUV qui en plus a une partie est hybride, bon bah je vais avoir un petit supplément de sensation d'être dans une exemplarité écologique, et donc je vais avoir une forme de désinhibition. Alors l'idée est surtout pas de dénigrer l'économie circulaire, on a absolument besoin d'en venir à une économie circulaire, elle incarne clairement l'avenir, mais ce qu'il faut, c'est peut-être que notre intérêt pour l'impact écologique se développe, et on pourra jamais identifier une pratique à une vertu écologique. C'est pas parce que c'est de l'occasion, c'est pas parce que c'est de la location, c'est pas parce que c'est du recyclage que c'est forcément positif sur le plan environnemental. C'est parce que c'est positif sur le plan environnemental que ça allait.
Pour résumer, acheter en seconde main, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. La meilleure question à se poser au moment de l'achat, c'est finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce produit? C'est le meilleur moyen de connaître l'impact de notre consommation. Et tout de suite, nous recevons notre dirigeant de la semaine.
Focus Retail, l'interview.
Le recours à la seconde main, une tendance déjà engagée qui se confirme par la recrudescence de l'inflation. Un Français sur trois achète des articles d'occasion. Vous êtes également positionné sur ce marché en plein essor. Jean-Marc Belaïche, bonjour. Merci
bonjour,
d'être présent sur notre plateau. Vous êtes président du groupe Printemps et vous venez d'inaugurer un espace dédié au surstock, aux invendus. Expliquez-nous.
Absolument. On vient d'ouvrir un espace qui s'appelle Hors Saison, qui permet effectivement à nos clients de redécouvrir des pièces de saison précédente. Alors ça peut être des pièces de saison récente, mais ça peut être aussi de saison plus éloignée, à des prix intéressants. Et on a fait ça, en fait, dans un mouvement dans lequel le printemps s'est engagé depuis quelques temps déjà, puisqu'en septembre dernier, on avait ouvert le 7e ciel, qui est un espace dédié à la seconde main et à la circularité, donc qui est une façon, effectivement, de toucher ces sujets-là. Mais on se disait, on a aussi des stocks dont on ne sait pas quoi faire, des saisons qu'on a achetées il y a quelques années. Qu'en faire? Eh bien, en les mettant dans un écrin comme cet espace hors saison, qui est en plus magnifique parce que c'est organisé par couleur, c'est multicatégorie, donc on trouve toutes les catégories présentes au printemps organisées par couleur dans un espace qui ressemble un petit peu à un entrepôt. On a essayé de répliquer esthétiquement cet espace-là, cet esprit-là en tout cas, et puis les clients du coup sont ravis parce qu'ils découvrent des pièces qu'ils avaient peut-être ratées les saisons précédentes et à des prix attractifs.
Donc ça vous permet de gérer vos stocks, et comment rester compétitif face à des acteurs de plus en plus nombreux sur ce marché de la seconde?
Vous savez, nous, on est dans le marché déjà du plaisir. Donc tout à l'heure, j'entendais votre expert qui effectivement pouvait mettre en regard les excès des achats liés à la seconde main, mais nous on est plutôt dans des acheter mieux et se faire plaisir. Donc c'est une nouvelle façon de se faire plaisir, de la même façon que d'acheter des produits de seconde main est un moyen de se faire plaisir. L'axe prix peut être dans certains cas intéressant. Il y a aussi beaucoup de produits d'occasion qui sont en fait plus chers ou quasiment au même prix que des produits neufs, parce qu'il y a un aspect rareté qui peut se développer. Le plus important, c'est aussi l'aspect émotionnel de trouver une pièce unique. Et je crois que c'est ça qui rend la seconde main aussi avec autant de succès, en tout cas dans le concept d'un printemps où c'est des marques de luxe, une quinzaine de marques, donc avec une offre très très restreinte, c'est de retrouver des saisons passées. On avait aimé cette robe Jean-Paul Gaultier dans les années 81, on était peut-être adolescent et puis on ne pouvait pas vraiment se l'acheter à l'époque. On la retrouve à sa taille, donc il y a un côté très émotionnel dans ces achats.
Le groupe a été repris par des investisseurs qataris en 2013. Le Qatar, vous allez y ouvrir une adresse en septembre prochain, donc quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde de football. Un printemps de 30 000 mètres carrés au sein du quartier historique de la capitale, donc à Doha. La société le décrit comme un grand magasin nouvelle génération. Pourquoi ?
Tout à fait. Déjà, c'est un magasin qui est grand, parce que 30 000 mètres carrés, c'est beaucoup. Hein. Haussmann en a 45 000 mètres carrés, donc on est dans des comparaisons significatives. La location de ce magasin, vous en avez parlé, la localisation de ce magasin, c'est en plein centre-ville, donc c'est un aspect géographique qui est complètement en renouveau. On veut redonner à ce côté de la ville beaucoup plus de dynamisme. On est très proche des deux musées, donc ça, il y a un aspect très unique dans sa localisation. Ensuite, le design est très unique. C'est un magasin printemps comme vous n'en verrez jamais ailleurs, puisqu'il est complètement unique, complètement fait avec l'ADN du printemps, mais dans l'esprit de la zone géographique dans laquelle on s'implante. Donc il y aura des choses qui ressembleront un petit peu à des dunes. Ça sera vraiment magnifique. On a travaillé avec Yabou Pouchelbert, qui sont des architectes très renommée en la matière. Et puis, il y a une dimension technologique et humaine qui est très très forte. Parce que dans le retail de demain, nous, on est convaincus que l'humain et la technologie doivent faire force et se mettre ensemble et se combiner. Et donc, notamment, on aura une omnicanalité totale avec des produits que l'on pourra acheter, évidemment, en retail, physiquement dans le magasin, se faire livrer depuis le magasin de Doha, se faire livrer aussi depuis les magasins français. Donc il y a aussi l'accès à des stocks qu'on aura développés à Paris. Et puis il y aura aussi du personal shopping et du conseil. On essaie de développer énormément cet axe-là.
C'est intéressant, vous parlez justement de cette stratégie omnicanal. Donc vous proposez donc du personal shopping, donc du one-to-one, mais aussi des sessions de live shopping, donc adressées à de nombreux clients. Quelles sont les premières retombées de cette stratégie ?
Elles sont excellentes. Oui. Excellentes parce qu'on se rend compte que dans un monde post-Covid, les gens n'ont pas envie de rester dans leur canapé à acheter uniquement sur leur iPad ou sur leur téléphone portable. Ils ont envie de contact humain. Alors, ils peuvent l'avoir dans le magasin, évidemment, mais ils peuvent aussi l'avoir de plus en plus en restant à leur canapé, finalement, puisqu'on arrive à être en contact avec des personnels shoppers. Et donc, cette dimension humaine, ce conseil, prend de plus en plus de force.
Nathan.
Oui, moi j'ai une question sur l'articulation entre les grands magasins et les centres commerciaux. Est-ce que cette notion de grand magasin est une notion européenne ? Est-ce qu'elle est universelle ? Et comment aujourd'hui on différencie dans l'opinion, dans la perception des clients, ces deux natures de commerce ?
Mais il y a une différence énorme. La différence, c'est que déjà, dans un centre commercial, tous les points de vente qui sont opérés par des opérateurs externes. Dans le cas d'un printemps, on a des marques qui opèrent elles-mêmes leurs points de vente, mais on a aussi énormément d'espaces qui sont opérés par du personnel printemps avec des acheteurs qui ont fait une sélection produit. Donc il y a un point de vue et une curation qui est beaucoup plus forte, ce qui permet de faire émerger des petites marques en complément de toutes les grandes marques dont les clients raffolent. Donc ça, c'est un axe important. La dimension servicielle aussi, on parlait des personnel shoppers, c'est compliqué, je pense, dans un centre commercial de répliquer ce qu'on peut faire au printemps où le même personnel shopper peut vous servir sur l'homme, sur la femme, sur l'enfant, sur la maison, et vous suivre sur différentes catégories aussi sur différents niveaux de prix. Donc ça, c'est deux exemples de services assez concrets qui sont différents. Il y a aussi évidemment l'e-commerce. Un centre commercial ne peut pas ouvrir de site e-commerce qui va revendre des produits, ne peut pas faire ce qu'on a fait de mettre les personnel shoppers en ligne, ce qui permet d'accéder à tout le stock présent dans nos magasins. Donc il y a quand même des différences très importantes.
Et elles sont perçues ?
De plus en plus.
Alors le printemps essaie de vivre sans les touristes chinois. Leur absence s'est déjà fortement ressentie lors des étés 2020-2021. Les grandes enseignes ont dû se contenter finalement des touristes américains, des ressortissants des pays du Golfe, les Dubaïotes et Qataris, mais aussi les Français. Comment attirer la clientèle locale qui a été délaissée pendant des années par les grands magasins au profit de touristes argentés?
Donc dans notre stratégie pour reconquérir les Français, il y a eu trois axes forts. L'omnicanalité, j'en ai déjà parlé, avec tous les services développés. Le personal shopping et toute l'intimité client et le service en magasin qu'on a énormément renforcé ces dernières années. Et le troisième axe, c'est l'expérience. On a ouvert de nombreux espaces expérientiels, parfois qui mixent du retail, donc je peux acheter un produit et j'ai une expérience. On a par exemple au rez-de-chaussée de l'Homme à Haussmann un café vert où on peut acheter des plantes, d'ailleurs des plantes aquatiques, une nouvelle forme de plantes que je ne connaissais pas, et déguster un café, une belle salade, et on a répliqué ça. Notre coupole bleue historique est devenue coupole plage pour quelques mois, donc on peut acheter des maillots de bain, des lunettes de soleil et aussi déjeuner sur un restaurant qui est thématisé.
Vous avez ouvert aussi un virtual store.
On a ouvert aussi un virtual store, exactement. Donc on est de plus en plus dans l'expérience pour les clients français et internationaux. Et d'ailleurs, je voulais partager quelques chiffres. C'est vrai que les Chinois sont absents encore, puisqu'on voit bien que la crise Covid perdure malheureusement dans le pays. Néanmoins, les chiffres sur les touristes, les autres touristes sont excellents. Et sur avril, on a réalisé plus 70% sur l'ensemble des touristes hors chinois par rapport à 2019. Donc c'est quand même une performance qui donne beaucoup d'espoir. Et on arrive quasiment à compenser l'absence des touristes chinois. C'est vrai que c'était une population importante.
Et quelle part représente la clientèle française ?
Aujourd'hui, c'est une grosse moitié du chiffre d'affaires.
D'accord, donc des chiffres plutôt encourageants.
Absolument.
Merci beaucoup, Jean-Marc
Bélanger. Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes président du groupe Printemps. Tout de suite, le chiffre de la semaine.
Focus Retail, le chiffre de la semaine.
Le marché de la seconde main devrait progresser de 15 à 20% ces 5 prochaines années. Un Français sur 3 a déjà acheté d'occasion. Si on fait le calcul, peut-on estimer le nombre de Français qui se sont déjà laissés tenter ?
Voilà. Donc effectivement, selon les échos, on est autour de 20 millions de Français qui se sont laissés tenter. Ça témoigne de l'attrait de cette offre. Ça témoigne des pénuries qui font que parfois on a des prix d'occasion plus élevés que les prix dans le neuf. C'est notamment sur le cas sur le marché de l'automobile avec des Tesla qui sont de plus chers parce qu'elles sont disponibles que les Tesla qu'il faut attendre plusieurs mois. Et puis ça montre aussi l'intérêt pour cette singularité et ce supplément d'âme qu'on a parfois dans la seconde main. Les produits ont une histoire, ils ont vécu, et ça c'est effectivement quelque chose aussi qui peut contribuer à la perception de leur valeur.
Et pour éviter les armoires pleines, les tiroirs qui débordent, on peut aussi louer. C'est particulièrement intéressant, Nathan, lorsque cela concerne des objets qu'on n'utilise pas forcément au quotidien. Des jeux de société, par exemple, c'est l'idée de deux Franciliens.
Absolument. Et ils ont lancé en 2021 Gameflix. Et Gameflix, c'est une ludothèque en ligne qui essaie de proposer quelque part de la consommation de jeux de société en streaming. Concrètement, ils ont trois offres. Une offre à la carte, une offre où c'est eux qui choisissent les jeux qu'ils mettent à la disposition. Et comme il y a beaucoup de jeux aujourd'hui, notamment les escape games qui ne se jouent qu'une seule fois, qui sont à usage unique, c'est particulièrement intéressant de les remettre en circulation. Puis il y a aussi les cartes cadeaux. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la logistique. La personne qui vient déposer les jeux va aussi récupérer les jeux auxquels on a pu jouer au cours des semaines précédentes. Et donc il y a vraiment une logistique circulaire qui se met en place. Et bien sûr, les jeux auxquels on a apprécié de jouer, on va pouvoir les acheter.
J'ai vu le jeu Harry Potter passer, par exemple, si je souhaite le garder, celui-ci?
Exactement, on peut l'acheter dans des conditions avantageuses. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas l'achat impulsif, il n'y a pas de stock, il y a vraiment le fait qu'on achète des jeux auxquels on a joué, qu'on a apprécié, et ce sont des achats du coup raisonnés.
Merci beaucoup Nathan. Tout de suite, la start-up de la semaine.
Focus Retail, le pitch.
Louer plutôt qu'acheter, une autre solution pour faire ses économies. Alors la location existe depuis longtemps, les skis, au sport d'hiver, la voiture pour les vacances. C'est vrai que cette offre de location n'a en soi rien de révolutionnaire et pourtant vous avez misé sur ce créneau. Tanguy Frécon, bonjour.
Bonjour Noémie.
Vous êtes cofondateur de la start-up Lizzie. Alors expliquez-nous, qu'apportez-vous de nouveau dans ce secteur ?
Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un honneur de passer après Jean-Marc Belaïch, que j'admire énormément. Il a fait un gros travail de transformation sur son magasin, ses magasins. C'est un plaisir. Donc, on le sait tous, l'industrie du retail est devenue l'une des industries les plus polluantes au monde. On pollue trop, on doit faire les choses différemment, arrêter de surconsommer et surtout de sous-utiliser les produits que l'on achète. Donc, on a créé Lizzie il y a 3 ans avec une volonté de décarboner de plus de 50% l'industrie en appliquant un principe de l'économie circulaire qui est le réemploi, la réutilisation. Donc concrètement, on permet à des marques, à des enseignes, de se lancer dans l'économie circulaire en déployant des services de réemploi, de location, courte durée, longue durée, avec des options d'achat, avec des abonnements, mais également de faire de la récupération de produits auprès des consommateurs pour lancer également des services de seconde main.
La location de produits demande une logistique, donc un espace dédié au stockage, mais aussi la livraison, les retours, l'entretien. Vous gérez tout de A à Z ?
Alors, on arrive avec une solution clé en main. Après nous, Lizzie, on est éditeur d'une solution logicielle e-commerce, et vous l'avez dit, logistique, de logistique inversée. Mmh. On vient optimiser les flux retours, les reconditionnements, pour optimiser le retour sur investissement. Parce qu'on ne fera pas de durabilité sans faire du profitable. On doit lancer des services de re-commerce qui vont être rentables immédiatement, ou en tout cas qu'ils deviendront au fil du temps. Donc on propose un service logiciel avec en plus des partenaires logistiques qui sont connectés à notre solution et qui peuvent proposer à des marques comme Petit Bateau, comme Maje, un service clé en main, donc avec des mètres carrés dédiés qui seront utilisés pour expédier la marchandise en magasin directement chez le consommateur, mais également utilisés pour faire de la réparation, du nettoyage, de l'inspection, pour que quelqu'un d'autre puisse utiliser le même produit derrière lui.
Alors, votre pari est de convertir le plus d'acteurs possible. Mais est-ce que la location, elle est compatible avec tous les secteurs ?
On est en 2022, on est en France, en tout cas on opère nous aujourd'hui sur le marché européen. Donc, on peut penser tout louer, mais on se focus quand même sur des verticales aujourd'hui qui fonctionnent. On travaille beaucoup dans le sport avec des enseignes comme GoSport, comme le groupe Decathlon, des marques comme Picture Closing. Dans tout ce qui touche à l'enfant, pas que le vêtement, mais également le jouet, avec des enseignes comme Petit Bateau, mais également la mode des robes de soirée. Vous pourriez, par exemple, louer toutes vos tenues pour vos différents plateaux, chez Maje, par exemple. Donc, on vient proposer des choses qui ont aujourd'hui du sens en 2022, avec cette conviction profonde, c'est que d'ici quelques années, on pourra absolument tout louer, et on veut rendre disponibles les produits as a service, donc à la demande, un petit peu comme aujourd'hui on va écouter sa musique sur Spotify, Deezer, ou regarder sa télé finalement sur des plateformes comme Canal+ ou Netflix.
Ma question porte sur la création de produits un peu adaptés à ces nouvelles filières. Quand on est fabricant et qu'on veut vendre son produit, on a intérêt à ce qu'il soit bon marché pour être accessible au plus grand nombre. Lorsqu'on met en location un produit, on a avantage à ce qu'il soit très durable. C'est peut-être pas le même finalement. Mm-mm. Et donc, mettre en location des produits qui ont été conçus pour la vente, est-ce que c'est toujours avantageux ? Et est-ce que les fabricants ont commencé à prendre conscience que certains clients peuvent être négligents ou désinvoltes et qu'il y a peut-être des choses à inventer ?
Il faut commencer quelque part. Donc, elles ont toutes commencé avec des produits qui étaient des invendus, des collections antérieures, des produits de la collection actuelle. Évidemment, toute la donnée que notre logiciel va traiter va leur permettre de voir qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont les matériaux qui résistent, les modèles qui plaisent, ceux qui plaisent moins, pour pouvoir adapter au fil de l'eau leur service de location et même la collecte de produits bien spécifiques qui seront rentables en seconde main. Donc, il y a effectivement des enseignes avec qui on travaille depuis un certain temps. Je peux parler par exemple de Decathlon, qui aujourd'hui ont assez de recul, au bout de 4 ans quand même, pour savoir les matériaux qui résistent, ceux qui ne résistent pas, pour finalement proposer des produits qui aujourd'hui sont assez durables, assez solides, pour être réutilisés 10, 15, 20 fois. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup quand même des produits qui n'ont pas été conçus spécifiquement pour la réutilisation. Mais évidemment, c'est le but, c'est là où on doit emmener les marques, parce qu'on ne peut pas continuer à faire du retail en produisant autant, parce que la vraie problématique, l'impact, il est là, hein, c'est la production. Si on continue, comme vous le disiez tout à l'heure, à consommer finalement plus parce qu'on paye moins cher, ça ne marche pas. À un moment, il faut consommer autant, voire réduire sa consommation, mais surtout utiliser des produits qui ont déjà été fabriqués. Et c'est notre mission, c'est de permettre aux marques d'avoir ces données qui va leur permettre demain de concevoir mieux, concevoir probablement peut-être un petit peu moins, mais d'optimiser l'usage.
C'est vrai que votre projet nécessite de faire de la pédagogie, de repenser aussi les business models.
Ben c'est un des enjeux majeurs, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est le sujet un peu chaud du moment, l'économie circulaire, mais ça reste quand même ça reste un concept pour beaucoup de monde, beaucoup de chefs d'entreprise. Donc on veut les emmener, nous, vers vraiment la réalisation, vers l'audace, avec un service vraiment clé en main. En même pas 2 mois, on peut lancer une marque du moment où on se met d'accord sur les termes financiers de notre partenariat, au moment où on va lancer, recevoir la première location ou la première vente de seconde main ou le premier retour produit en magasin. Il se passe à peu près 8 semaines, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Donc, et il y a un sujet de transformation aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise comme Jean-Marc Belaïch qui viennent derrière infuser cette culture auprès de son entreprise, parce que ce n'est pas que faire un petit pilote dans un coin. Merci. Pour faire un peu de greenwashing. Il y a un gros sujet de transformation, d'infusion au sein de toute l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup de direction générale, parce que c'est pas anodin de dire on va passer de modèles de vente linéaire à des modèles circulaires de réutilisation. Voilà. Et c'est pour ça qu'on doit réconcilier ces enjeux business et RSE de manière importante.
Merci Tanguy Frécon. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Lizzy, donc vous avez levé 3 millions d'euros depuis votre création en 2019.
Absolument.
Merci beaucoup Nathan Stern de nous avoir accompagnés lors de cette émission. C'est déjà la fin. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.